Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous et bienvenue dans cette 49e émission de Complètement à l'Ouest. Nous approchons peu à peu de notre orbite stationnaire avec notre future 50e émission. Pour l'émission de ce jour, ce n'est pas tout à fait un hasard si j'utilise ce vocabulaire spatial, car c'est d'espace, de lanceurs, de souveraineté stratégique et de systèmes spatiaux dont nous allons parler, ce qui va nous emmener dans les hautes sphères, plus précisément à plus de 100 km d'altitude, seuil à partir duquel, par convention, on parle d'espace. Là où il est possible de s'y maintenir en orbite. Mais avant de vous présenter notre invité, je voudrais vous donner quelques ordres de grandeur en rappelant tout d'abord qu'à 400 km au-dessus de nos têtes, c'est à peu près la distance de Paris à Lyon, flotte la station ISS qui tourne en orbite, station spatiale dans laquelle l'une des personnalités préférées des Français, Thomas Pesquet, a séjourné 6 mois dans cet espace clos et pressurisé. Poursuivons en citant que proche de la Terre, mais tout de même 10 fois plus éloigné, soit près de 400 000 km, il y a la Lune. Quant à la planète Mars, planète de tous les fantasmes, y compris ceux d'Elon Musk, elle se situe près de 200 fois plus loin et il faut environ 6 mois de voyage, si tout va bien, pour la rejoindre. Et puis finissons ce voyage vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair, en rappelant qu'il a fallu 6 années, je dis bien, à la sonde japonaise Hayabusa 2, pour ramener sur Terre quelques grammes d'un petit astéroïde distant de 340 millions de kilomètres. J'arrête là cette mise en perspective pour dire, comme Paul Éluard, que la Terre est bleue comme une orange et l'on pourrait rajouter que l'espace est noir comme un citron. En tout cas, vous l'avez compris, c'est donc d'espace, de conquête spatiale, de bataille géopolitique pour la maîtrise du ciel dont nous allons parler aujourd'hui. Enfilons nos combinaisons, pressurisons notre vaisseau et envolons-nous vers l'espace. C'est parti. Droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Philippe Steininger.
Bonjour.
Devrais-je dire plutôt bonjour mon général et bienvenue au micro de Complètement à l'Ouest. Vous êtes précisément officier général dans l'armée de l'air et à ce titre ancien commandant des forces aériennes stratégiques. Puis vous avez occupé les fonctions de secrétaire général adjoint de la défense et de la sécurité nationale. Et vous êtes depuis 2018 le conseiller militaire du président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment celui-ci en 2020, Les fondamentaux de la puissance aérienne moderne, et puis il y a peu, celui dont nous allons abondamment parler, Révolution spatiale au pluriel, de Von Braun à Elon Musk, ouvrage qui explore les enjeux stratégiques de l'espace en tant que nouveau champ de bataille, et c'est de ce livre, je le disais, dont nous allons parler tout au long de cette émission. Alors vous le savez peut-être, si vous êtes éventuellement un fidèle de Complètement à l'Ouest, j'aime bien démarrer l'émission avec un court extrait sonore, histoire de se mettre dans l'ambiance, et là, nous allons vivre une minute haletante, très intense, très stressante.
Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Vous me recevez ?
Oui, je m'en sors, je suis détachée. Je sais pas, je pars en vrille, je peux pas. Le GPS marche pas, ça marche pas. J'ai rien, je vous dis, je vois rien, j'ai rien.
En visuel.
Non.
Avez-vous l'ISS en visuel?
Non.
Concentrez-vous. Prenez n'importe quoi, le soleil et la terre. Donnez-moi des coordonnées.
Ça m'étouffe. Je peux pas respirer.
Vous brûlez de l'oxygène. Il faut siroter, pas engloutir.
Alors il s'agit d'un très court extrait du film Gravity, sorti en 2013 avec George Clooney et Sandra Bullock. L'histoire est connue, seul survivant d'une mission spatiale destinée à réparer le télescope spatial Hubble. Il tente de retourner sur Terre en regagnant la station spatiale, ça a été cité, internationale ISS. Alors en lien avec cet extrait, Philippe Steininger, le sous-titre de votre ouvrage, c'est de Von Braun à Elon Musk. Alors il y est certes question de Werner Von Braun, l'ingénieur spatial Marshall, qui a d'abord travaillé pour l'Allemagne nazie, puis ensuite pour les États-Unis pendant la guerre froide. Et il y a aussi question du fantasque, c'est le seul adjectif qui me vient en tête, Elon Musk, soutien notamment du candidat républicain Donald Trump. On sait cet homme attiré par Mars, mais récemment, et c'est aussi il y a quelques semaines, sa société spatiale, SpaceX, a réussi un véritable exploit, celui de contrôler le retour sur Terre du propulseur de la fusée Starship, un monstre de 120 mètres de haut et de 7500 tonnes de poussée. Et tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est un incontestable exploit d'ingénierie. On pourrait y revenir. Ma question plutôt porte sur l'un des chapitres de votre livre consacré, j'allais dire, aux anciens et aux modernes de la conquête spatiale. Et parmi les modernes, il y a notamment SpaceX, créé il y a une vingtaine d'années, qui est aujourd'hui la première compagnie privée aérospatiale à avoir introduit notamment l'idée d'une réutilisation des fusées. Et parmi les anciens, citons le CNES, l'ESA, la NASA, c'est-à-dire des agences étatiques ou para-étatiques créées il y a plus de 50 voire 60 ans. La question est la suivante, est-ce à dire que la conquête spatiale appartient désormais à ces nouveaux et jeunes entrants, notamment à un grand nombre de start-up sur ce marché en très forte croissance ?
Vous avez d'abord raison de souligner la très forte croissance du marché spatial. Ce marché, il représente aujourd'hui en valeur à peu près 500 milliards de dollars. C'est une valeur qui est en augmentation constante. Il a pris un tiers d'augmentation de valeur sur les 5 dernières années, malgré la crise du Covid. Donc on voit que c'est extrêmement dynamique. Et selon les études les plus sérieuses, cette dynamique de développement devrait se poursuivre puisque plusieurs études font état d'une valeur de 1000 milliards de dollars vers 2030, donc deux fois plus qu'aujourd'hui dans quelques années. Donc on voit qu'il y a un développement économique et commercial du secteur spatial qui est en marche et qui est extrêmement dynamique. Alors la question, évidemment, c'est celle que vous posez, c'est dans cette dynamique-là, quelle est la part de ce qu'on appelle le New Space ? Quelle est la part prise par ces nouveaux entrants ? Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire un foisonnement de création de start-up, pour vous donner une idée, en France, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de start-up qui se créent dans le secteur spatial chaque année. Donc quand on observe ce foisonnement, on a l'impression effectivement que le rôle des États est devenu secondaire et que ce sont ces nouveaux entrants, ces sociétés privées, et la figure la plus emblématique, c'est celle que vous avez citée, SpaceX. Évidemment, c'est SpaceX, mais il y en a d'autres. On a l'impression que ce sont eux qui ont pris le pouvoir, si j'ose dire, dans le domaine spatial. Et en réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien, ce sont encore les budgets publics qui, de manière très massive, continuent toujours, depuis le début, à financer les programmes spatiaux, les activités spatiales. Et pour caler un peu les idées, donner des chiffres, les investissements dans le domaine spatial, c'est à peu près 120 milliards de dollars chaque année. Tout pays confondu. Et sur ce chiffre, vous avez 90% de la somme qui provient de budget public. Alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a une dynamique de développement, là aussi, des investissements privés qui ont augmenté sur les 10 dernières années de 25%. Mais encore une fois, aujourd'hui, ils ne représentent que 10% de ce qui est investi dans le secteur spatial. Donc, ça reste encore, et c'était le cas depuis le début, hein, ça reste encore un domaine très régalien, l'espace.
Alors, on assiste, et vous le décrivez dans plusieurs chapitres de votre livre, à l'essor du tourisme spatial. On y reviendra notamment aussi à l'essor de la création de fusées géantes, à la mise en orbite de constellations de satellites. De plus en plus d'acteurs s'y intéressent, vous le disiez à l'instant. Quels sont les risques de cette ruée vers l'ouest, en l'occurrence vers les étoiles ?
D'abord, avant de parler de risques, il faut voir quelles sont les opportunités de cet incroyable développement. Moi, je crois que c'est une opportunité en termes d'accroissement des connaissances scientifiques, connaissances de l'univers, opportunité en termes d'amélioration de nos conditions de vie. On en reparlera tout à l'heure. Au quotidien, l'espace est rentré dans nos vies et objectivement nous facilite les choses.
Et sans le savoir, d'ailleurs.
Et sans le savoir parfois, même la plupart du temps, on y reviendra. Et puis, c'est aussi quelque chose qui crée de la valeur économique, on vient d'en parler. Bon, cela dit, cette dynamique, encore une fois, est extrêmement vive, extrêmement forte. Elle n'est pas sans comporter des risques. Alors d'abord, des risques opérationnels, parce qu'on a un nombre de satellites de plus en plus important. Aujourd'hui, pour prendre un compte rond, on a à peu près 10 000 satellites actifs au-dessus de nos têtes.
Qui sont tous en fonctionnement ?
actifs, voilà, donc qui sont, fonctionnent. Je ne parle pas de ceux qui ont terminé leur vie, dont on parlera peut-être tout à l'heure quand on abordera la problématique dite de la pollution spatiale. Mais voilà, 10 000 satellites à peu près, alors de toute taille, il y a de tout là-dedans, mais enfin à peu près 10 000 engins qui tournent autour de la Terre et qui produisent un service. Et puis, ce chiffre, selon les projections sérieuses, devrait être multiplié par 6 en 2030. Donc, on voit qu'on est en train de changer littéralement de dimension. Et évidemment, mais on y reviendra, j'en suis certain, ça crée des risques opérationnels. Et puis, il y a aussi un risque de confrontation dans l'espace de plus en plus important entre les puissances, entre les différents acteurs. Et un risque qui est favorisé par le fait que nous ne disposons pas aujourd'hui d'un corpus de droit spatial très robuste.
Pour quelles raisons ?
Tout simplement parce que collectivement, les pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un corpus de droit commun, communément accepté. Et il faut y voir là la problématique de l'antagonisme classique entre l'Ouest et l'Est. Alors ça a été très longtemps l'opposition entre le camp occidental et l'Union soviétique. Puis la Russie, aujourd'hui, c'est d'un côté le camp occidental, de l'autre la Russie et la Chine. En fait, on est arrivé à poser les bases du droit spatial que l'on connaît aujourd'hui dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, parce que les deux grands acteurs du moment, les États-Unis et l'Union soviétique, y avaient un intérêt. Donc, je ne vais pas me perdre dans les détails, mais il y avait un intérêt stratégique pour cela. Mais après, une fois ceci posé, on n'a pas réussi à aller plus loin parce que les négociations sans lice sont systématiquement bloquées.
Nous citions tout à l'heure Elon Musk et bien sûr SpaceX, mais il y a aussi Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon avec Blue Origin, sa société spatiale. Il y a aussi Richard Branson, le patron de Virgin avec Virgin Galactic et d'autres qui rêvent tous de voyager ou de faire voyager dans l'espace. Est-ce que c'est seulement un délire de milliardaire ou est-ce que cette quête de l'espace traduit autre chose ? Au fond, la question que je me pose, c'est la suivante. Quelle est finalement la place de l'espace dans nos sociétés ?
L'espace, aujourd'hui, occupe une place absolument essentielle dans le fonctionnement de pans entiers de nos sociétés modernes. Tout simplement parce que l'espace est pleinement intégré à ce qu'on appelle la révolution numérique. Et les données d'origine spatiale, qui sont des données numériques...
Pensez au GPS, bien sûr.
Entre autres, on va y venir, mais effectivement, ces données-là sont de plus en plus nombreuses et investissent notre quotidien. Effectivement, on le retrouve dans notre quotidien. Alors, si on regarde l'espace dans notre quotidien, vous avez cité le GPS, effectivement, il est là, mais pas seulement. On parlera sans doute de Galiléo aussi. Je suis venu ici en prenant mon smartphone et en utilisant la fonction géolocalisation de mon smartphone. Je le sais, moi, mais la plupart de nos contemporains ne le savent pas, mais ils se connectent à des satellites qui leur indiquent la bonne route à prendre. Et ce sont aussi ces mêmes systèmes dits de géolocalisation qui fournissent une base de temps très précise pour plein d'opérations très essentielles sur Terre. Par exemple, les opérations de bourse, le trading haute fréquence, toutes les opérations bancaires sont timées, si j'ose dire, par une base de temps commune extrêmement précise fournie par des satellites. Et c'est la même chose lorsque vous retirez de l'argent à un distributeur automatique dans la rue. Donc, le spatial est là dans notre quotidien. Le spatial, il est là aussi dans la mise en œuvre de bon nombre de nos politiques publiques, l'agriculture, les transports, bien sûr. La réduction de la fracture numérique, il y a encore des zones blanches, beaucoup, peut-être pas en France, mais dans le monde, et c'est l'espace qui permet de réduire le défaut de connectivité dans ces zones. Il joue aussi un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, parce que le climat de notre planète est ausculté en permanence, et il est ausculté de manière très significative depuis l'espace. Il y a une batterie de quelques dizaines d'indicateurs qui rendent compte de l'état du climat, et plus de la moitié de ces indicateurs sont alimentés exclusivement par des systèmes spatiaux. Donc il y a là un rôle très important de l'espace joué dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Et puis l'ancien militaire que je suis ne peut pas ne pas citer le domaine de la défense. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une opération militaire, disons, d'une ampleur significative sans recourir à des systèmes spatiaux. Donc la défense de nos sociétés passe par l'espace, et cet espace, ces systèmes spatiaux eux-mêmes ne sauraient rester sans défense. Donc si je devais prendre une formule à slogan, je dirais qu'il n'y a plus de défense sans espace et plus d'espace sans défense.
Et le militaire budgétaire, le rationnel, le cartésien que vous êtes, que pensez-vous de ces milliardaires qui ne rêvent que d'espace? Est-ce que c'est un délire personnel ou est-ce que il y a bien sûr des arrière-pensées business derrière Blue Origin ou SpaceX ou d'autres?
C'est comme toujours. Je crois qu'il ne faut pas avoir de vision trop manichéenne. Il y a un peu, sans doute, du bris de ces personnes. Mais il y a aussi de la passion. Jeff Bezos, par exemple, est passionné par les affaires spatiales. Il met $1 milliard de dollars de sa fortune personnelle dans le développement de ses activités spatiales. Il est passionné véritablement par cela. Et puis, il y a aussi des visées commerciales. Elon Musk, l'espace, pour lui, n'est qu'un outil pour s'investir et mettre en place une connectivité globale.
Un mot sur l'ère du tourisme spatial dans laquelle nous sommes entrés depuis que, justement, Branson, Bezos, Musk ont envoyé des civils en orbite, parfois pendant plusieurs jours ou voire plusieurs heures. Deux questions en une. Est-ce que nous pourrions devenir tous, j'allais dire, dès lors qu'on a une fortune conséquente, évidemment, des touristes de l'espace? Et le tourisme de l'espace, l'autre question, relève-t-il seulement du divertissement de milliardaires en quête de nouvelles émotions, on en parlait à l'instant, ou est-ce plutôt, comme certains le disent, une nouvelle forme de crime contre la nature, une sorte de prédation extrême?
Bon, d'abord, aller dans l'espace, ça coûte très cher, donc je pense
sans, il faut vous être
faire,
fortuné.
Sans vous faire offense, ni vous ni moi n'allons partir bientôt dans l'espace. Donc ça reste quand même un phénomène aujourd'hui qui est
très élitiste,
cantonné à une toute petite minorité. Alors vous posez la problématique de l'impact écologique de ce qu'on appelle le tourisme spatial, je crois qu'il faut l'objectiver. Envoyer une fusée dans l'espace, c'est l'équivalent de quelques secondes de circulation automobile dans le monde. C'est moins de 5 secondes. Voilà. Donc, en termes de dégagement de CO2, hein, en termes d'émissions de CO2. Donc, on est quand même très loin de ce qu'on appelle, ou ce que vous avez appelé dans votre question, la prédation extrême. Voilà. Cela dit, ces touristes spatiaux, pour la plupart, ne font qu'une toute petite incursion dans l'espace.
De quelques minutes.
Quelques minutes. Et pour cela, ils émettent à peu près le double de gaz carbonique, de CO2, qu'un humain devrait émettre au cours de toute une année pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Donc c'est à l'évidence pas très responsable et pas très vertueux sur le point écologique, c'est une évidence. Alors, je ne veux pas prendre la défense des touristes spatiaux, mais à la décharge de ceux-ci, il faut reconnaître que le prix de leur billet, si tant est qu'il y ait un billet, donc un prix qui se compte en millions, voire en dizaines de millions de dollars, ce prix sert à financer une industrie, l'industrie spatiale, qui a toute sa place dans la lutte contre les réchauffements climatiques, j'en parlais tout à l'heure, et qui contribue à porter un message de préservation de la planète. Ce que font les astronautes de manière systématique lorsqu'ils reviennent d'une mission. Et les astronautes sont des personnalités qui sont très respectées et donc qui sont très écoutées. Donc il y a un effet induit de cet envoi d'hommes dans l'espace qui n'est pas tout à fait négatif quand même.
On va marquer une courte pause musicale avec ce morceau évident, j'allais dire logique, que vous avez choisi, Philippe Stanninger. Il s'agit bien sûr du grand Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Petite anecdote au sujet de cette chanson qui a été écrite par Bart Howard en 54. Frank Sinatra l'a interprétée pour la première fois en 64 et en 69, quand Buzz Aldrin a posé le pied sur la Lune, on dit, dans le cadre de la mission Apollo 11, on dit que cette chanson a été diffusée dans son casque juste après l'alunissage. Allez, on l'écoute.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship,
and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Allez, de le retour avec le général Philippe Steininger qui publie « Révolution spatiale » écrite au pluriel et c'est aux éditions de l'Archipel. Près de 10 000 satellites, vous le disiez tout à l'heure, sont actuellement en orbite autour de la Terre et vous consacrez plusieurs pages à ce qu'on appelle la pollution orbitale en mentionnant ces micro-débris, ces déchets qui flottent dans l'espace, de tout petits objets métalliques dites-vous, mais qui peuvent faire de gros dégâts. Alors le cinéma, on a entendu tout à l'heure, on peut en faire son miel avec le film « Gravity ». Vous dites, et c'est en page 59, que la Station Spatiale Internationale, l'ISS, a dû manœuvrer plus de 30 fois entre 1999 et mars 2023 pour éviter des collisions avec des débris. Et vous citez même cette date du 29 mai 2021 où son bras articulé a été abîmé par un impact. Alors j'imagine que dans l'espace, on n'appelle pas Carglass. Qu'est-ce que cette pollution orbitale peut faire et est-il possible de nettoyer l'espace ?
Alors, plutôt qu'une pollution orbitale, moi je préfère évoquer une congestion des orbites basses. Et cette congestion, nous l'observons bel et bien aujourd'hui, et elle s'accroît et elle augmente les risques auxquels sont exposées les plateformes orbitales.
Vous l'avez évoqué
à l'instant. L'ISS notamment, c'est celle qui nous préoccupe le plus bien sûr, puisqu'il y a à bord des humains et il y a également une plateforme chinoise. Alors ces risques sont-ils ? Ce sont d'abord des risques de collision, parce que certes il y a ces 10 000 satellites actifs, mais il n'y a pas que des satellites actifs, il y a aussi des tas d'autres objets qui traînent, si j'ose dire, dans l'espace. Alors si on donne quelques chiffres, si on prend une bande dite des orbites basses, donc entre 200 et 2000 km autour de la Terre, dans cette bande-là, on considère qu'il y a à peu près 37 000 objets qui ont une taille supérieure à 10 cm, et un peu moins d'un million qui ont une taille supérieure à 1 cm. Et donc ces objets, ils sont à 90% des débris,
c'est-à-dire
des choses qui sont livrées à elles-mêmes, qui tournent autour de la Terre dans un mouvement qui s'apparente à une chute perpétuelle. Alors, il y a de tout là-dedans. C'est une composition extrêmement hétérogène. Ça va de petits éclats de peinture, d'outils perdus par des astronautes lors d'une sortie extravéhiculaire, à des objets très gros qui font plusieurs tonnes, qui font plusieurs mètres, parfois qui dépassent la dizaine de mètres, des étages de lanceurs, des gros satellites qui ont terminé leur vie opérationnelle. Et tout ça flotte dans l'espace et tourne autour de la Terre. Et ces objets, ils vont vite, puisque pour rester en orbite, il faut tourner à peu près, je prends des comptes, à peu près à 8 km par seconde. Et ils sont là pour très longtemps, puisqu'en gros, si vous êtes à 2000 km autour de la Terre, bah, vous tournez pour l'éternité. Et puis au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la Terre, parce qu'il y a du frottement résiduel, votre durée en orbite va se réduire, mais elle peut se compter en siècles, en années. Voilà. Donc c'est quand même objectivement une situation qui est porteuse de risques et qu'il faut prendre en compte. Alors, il faut quand même se garder de dramatiser la situation, parce que certains scientifiques se sont penchés sur la question et ont essayé de donner des images objectives de la situation. Si on prenait tous ces objets et qu'on les compactait, ils représenteraient un volume qui, en valeur relative par rapport au volume d'espace dans lequel ils évoluent, qui est absolument considérable, hein, donc entre 200 et 2000 km autour de la Terre, eh bien, on aurait une situation qui serait comparable à deux bouteilles d'un litre, une bouteille classique, dans le volume de la mer Méditerranée. Donc vous voyez que c'est quand même très très loin des images qu'on nous sert en général pour décrire cette problématique. Pour autant, la donne est en train de changer, je l'évoquais tout à l'heure, parce qu'on met en place, en orbite, des méga-constellations constituées de milliers, voire de dizaines de milliers de satellites. Mmh. Et donc, cette population orbitale, elle est en train d'enfler, si je puis me permettre, de manière très rapide et de manière très considérable. Et donc, mécaniquement, elle augmente le risque de collision. Mmh. Donc là, il y a une problématique qu'il faut prendre en compte. Et puis, il n'y a pas seulement une problématique d'encombrement physique des orbites, il y a aussi une problématique d'interférence, parce que tous ces satellites, pour fonctionner, ont besoin de bandes de fréquences, et le spectre électromagnétique n'est pas extensible à l'infini. Et ces satellites sont plus nombreux, de plus en plus nombreux, donc de plus en plus proches les uns des autres, et donc il y a un risque d'interférence qui augmente. Donc, il y a une vraie question de congestion des orbites basses.
À quel horizon cette congestion-là pourrait être vraiment compliquée à gérer ?
On ne peut pas répondre à cette question. Il suffit d'un ou de deux incidents, enfin, ou accidents, pour changer complètement la donne. Si vous avez deux gros objets qui se télescopent, ils vont produire beaucoup de débris, et ces débris vont eux-mêmes probablement heurter d'autres objets et ainsi déclencher un mouvement en cascade. C'est ce que certains appellent le syndrome de Kessler. Et très rapidement, on peut se retrouver dans une situation ingérable. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre ça en compte. C'est déjà fait, pour une part, mais on a encore des progrès à faire.
Sur un autre sujet, vous écrivez, c'est à la page 108, que, je vous cite, « Nous nous orientons vers une nouvelle ère qui verra les États-Unis concentrer leurs efforts sur l'exploitation lunaire puis martienne. » La question que je me suis posée en vous lisant, c'est est-ce que finalement l'Europe a encore voix au chapitre dans cette quête de vol habité en orbite basse, voire pour des voyages lunaires ou martiens ?
Alors là, vous posez la question de la place de l'Europe dans l'exploration spatiale et plus particulièrement dans le domaine du vol habité, qui est une partie bien circonscrite. Bon, comme vous le savez, l'Europe, depuis toujours, a fait le choix de s'appuyer sur des partenaires pour envoyer ses astronautes dans l'espace, donc les Soviétiques, puis les Russes et puis les Américains, bien sûr. C'est pas un choix qui est imposé par une insuffisance technique. C'est un choix qui procède d'une démarche stratégique tout à fait raisonnée. Là aussi, la donne va changer parce que la fin de vie de l'ISS, donc Station Spatiale Internationale, est annoncée pour 2030. Et donc, après la fin de ce programme de coopération, ce beau et grand programme de coopération internationale, on va assister à une forme de privatisation, entre guillemets, des orbites basses. Parce que, outre la station spatiale chinoise et probablement une station spatiale indienne et peut-être russe, ce que l'on va avoir en orbite basse, ce sont des stations spatiales privées, pour tout dire américaine, auxquelles on accédera par des vols privés. Et donc, effectivement, dans ce paysage, se pose la question de la place de l'Europe. Est-ce qu'elle acceptera de finalement financer une activité privée américaine ou au contraire, prendra-t-elle un autre chemin ? En tout cas, c'est une question qui ne se pose pas en termes techniques, mais qui se pose en termes politiques. Et sur l'exploration lunaire, l'Europe a choisi de coopérer avec les États-Unis. Donc, il y a un programme d'exploration lunaire qui s'appelle Artemis. Et l'Europe y coopère en apportant notamment des pièces des capacités américaines, des pièces très importantes, comme par exemple le module de service de la capsule Orion, qui est la capsule qui succède à Apollo, qui va emmener les astronautes de la Terre vers l'orbite lunaire, et puis qui les ramènera sur Terre. Et donc ce module de service, en gros celui qui donne l'eau, l'électricité, en quelque sorte, à la capsule, il est européen. D'accord. Voilà. Et puis il y a d'autres parties importantes du programme qui seront fournies par les Européens.
Alors, l'espace, vous l'avez dit à plusieurs reprises, et c'est un lieu très convoité par les militaires, ne serait-ce que pour surveiller ce qui est détecté et identifié d'éventuelles menaces. Là encore, vous citez le département de la défense des États-Unis, notamment leur capacité à détecter des missiles hypersoniques. Du fait de notre dépendance au système notamment de guidage singulièrement américain via le GPS, via l'OTAN, clé, j'imagine, pour lancer des missiles. Où en est l'Europe avec Galileo, vous avez tout à l'heure prononcé le nom, censé être le challenger du GPS américain?
Alors cette constellation de satellites, constellation européenne, Galileo, est un grand succès. Malheureusement, c'est un succès qui n'est pas très connu, ou en tout cas pas très reconnu. Galileo est opérationnel depuis décembre 2016 et depuis ne cesse d'améliorer la qualité de son service. Alors, il faut savoir que Galileo, au quotidien, est utilisé sur la Terre par plus de 3 milliards d'utilisateurs. Tout simplement parce que dans tous les smartphones qui sont produits dans le monde, il y a une petite puce qui va aller chercher le signal de géolocalisation par satellite le plus performant disponible au moment où on se branche sur cette fonction-là. Et ces signaux, ils sont produits soit par le système américain GPS, soit par le système européen Galileo, soit par le système chinois Baidu, soit par le système russe GLONASS. Et il se trouve que, systématiquement, c'est le système Galileo qui est le plus efficace.
Bonne nouvelle pour l'Europe.
Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Et ça veut dire que, quand on est avec son téléphone et qu'on se dirige, on n'utilise pas le GPS, on utilise Galileo. Mmh. C'est quelque chose qu'en tant qu'Européen, il faut vraiment avoir en tête. Et si j'étais un peu chauvin, je dirais que Galileo n'est pas le GPS européen, c'est plutôt le GPS qui est le Galileo américain. Voilà, je referme la parenthèse.
Vous avez raison.
Enfin,
de souligner.
Dans les prochains mois, le signal PRS, qui est un signal gouvernemental de Galileo, va être mis en service. Donc c'est un signal qui est très protégé et très précis. Et ce signal-là, il va permettre aux armées françaises, notamment, de s'émanciper de leur dépendance actuelle au GPS américain. Et une infrastructure comme Galileo, donc, qui donne encore une fois une position sur la Terre, mais aussi une base de temps très précise, c'est incontestablement une infrastructure de souveraineté, parce que si on dépend d'un système étranger pour cela, et un système de surcroît militaire, quand il s'agit du GPS américain, eh bien, on est très loin de l'idée d'autonomie stratégique.
Bien sûr, bien sûr.
Et imaginez ce que ce sera lorsque nous aurons des véhicules autonomes.
Bien sûr. Il y a quelques semaines, une sonde américaine, Europa Clipper, c'est son nom, a déployé ses immenses panneaux solaires pour fournir l'énergie, notamment pour un très long voyage vers Jupiter. Si tout va bien, Europa Clipper devrait atteindre Jupiter en 2030. Question toute simple et très naïve que je vous pose, à quoi servent concrètement les observations que ramènent ces sondes qui voyagent si loin? Est-ce que c'est seulement l'illustration d'un hubris que vous citiez tout à l'heure des nations, ou est-ce que ça sert utilement à notre connaissance de nos origines?
Non, mais ces missions d'exploration lointaines, hein, parce qu'elles vont vraiment très très loin, répondent en fait aux besoins de connaissance de l'univers que l'homme porte en lui, sui generis. Ça a toujours été comme cela et repousse les frontières de sa connaissance. Donc ces missions, elles ont par construction évidemment une part d'incertitude, leur bilan peut être mitigé, c'est un fait. Mais si on les regarde, on constate que, de manière quasi systématique, elles sont réalisées en coopération internationale avec un partage des données scientifiques qu'elles recueillent. Donc c'est plutôt quelque chose qui est assez loin de l'idée du Brice et qui est plutôt dans une approche universaliste de l'univers et de l'espace.
Un grand merci, Général Philippe Stanninger, d'avoir accepté de venir à ce micro. C'était véritablement passionnant. Et je recommande fortement la lecture de votre ouvrage « Révolution spatiale de Von Braun à Elon Musk ». Et c'est paru aux éditions L'Archipel. On a véritablement voyagé. Merci encore. Un mot sur
merci
notre programme du mois prochain. Une mission qui, je l'espère, là aussi passionnante d'un double point de vue. D'abord parce que ça sera la 50e émission. Le temps passe vite. Et ensuite, parce que nous aurons la présence à ce micro de la journaliste grand reporter Marine Jacquemin, qui a publié il y a quelques mois un ouvrage à la fois captivant et très personnel, « Méguerre, confidence d'une grand reporter » aux éditions de l'Observatoire. Il s'agit d'un récit sur sa carrière et bien sûr aussi sur sa vie de femme. Cette émission sera donc à l'antenne début décembre Et je dis ça au passage, c'est en soi potentiellement, de même que le livre de notre invité de ce jour, Révolution Spatiale, des très très bonnes idées de cadeaux pour les fêtes. Alors comme d'habitude, mes remerciements vont à notre équipe en régie, qui œuvre pour que l'enregistrement et la diffusion de ces émissions soient fluides et se passent très bien, et elles le sont depuis 5 années. Merci beaucoup à vous en régie. Et puis je rappelle que cet épisode ainsi que les 48e autres peuvent être réécoutés en podcast sur les principaux players en ligne, grâce peut-être à des GPS et des satellites, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et beaucoup d'autres. Voilà, vous savez tout. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, on garde le cap à l'ouest, évidemment, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.